C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Ah, ça y est, je m'entends. Bonsoir. Il est 19h01 et c'est l'heure du Canu Info. Avec ce soir, ah bah tiens, j'ai pas du tout le fil. Mais on va commencer par... voilà, enfin mon collègue. Eh bah si, ça y est, j'ai le fil. On va commencer par revenir un tout petit peu rapidement sur Battisti qui a été arrêté. Non pas parce qu'on aurait des choses incroyablement neuves à dire ou parce qu'il se serait passé quelque chose dans les dernières heures, mais bien parce que cette fois-ci, la manière dont les autres médias ont parlé de lui a été quand même incroyablement différente de ce qui s'est passé depuis 2004 où on a entendu son nom pour la première fois, en tout cas pour les gens qui ne sont pas particulièrement amateurs de romans policiers. Ensuite, plusieurs universités, figurez-vous, refusent la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, hausse qui a été demandée par le gouvernement. Nous aurons par la suite une mini-rubrique Minority Report. Et puis, le grand chef des flics rappelle les règles théoriques pour l'usage des flashballs.
Et on... Ah non, après on parlera de la chasse aux chômeurs qui est ouverte. Et on finira ce Canu Info par la rubrique Il faut que ça se sache, où dedans on parlera du navire Open Arms bloqué par les autorités espagnoles, et on parlera encore de deux personnes condamnées pour assistance à personne en danger à Briançon.
Radio Canu 102.2.
Plus rebelle des radios.
Et oui, Cesare Battisti a été... Alors, j'ai des problèmes avec ce... Ah oui. A été arrêté en Italie...
Attendez, désolé.
Ah, ça merde en technique.
Ah bah ça merde en technique, dis donc, ça fait quand même très longtemps que j'avais pas fait la technique, j'ai pas fait exprès de m'y retrouver sur ce coup-ci. Et ça me joue des petits tours. Bon,
Ah, c'est parce qu'il sent, il comme ça, il a besoin de s'écouter quand il parle.
Alors, oui, bien sûr.
C'est un petit défaut d'ego, mais
poste, tout est extrêmement facile. Mais alors là, on m'a posé sur un tabouret sur lequel j'ai pas choisi d'être. Et figurez-vous que vous le remarquez peut-être pas, mais je viens de changer de casque et ça vient de changer deux ou trois petits trucs pour mes oreilles. Donc Battisti, revenons à Battisti.
Ah.
Battisti. Quand il avait été arrêté pour la première fois en France en 2004, avait bénéficié d'une sorte de gros élan de sympathie. Alors pas de la part de tout le monde bien sûr, mais enfin d'une part non négligeable de ce qu'on pourrait dire les intellectuels et du coup de la presse française. Il y avait eu quand même ce truc de... il y avait eu un gros soutien qui avait à l'époque rappelé quelques petits trucs un petit peu évidents. qui semblait évident à l'époque, en tout cas. Et sauf que là, 14 ans après, où il est à nouveau arrêté, les discours sont extrêmement différents. Alors moi, je voulais quand même revenir sur quelques petits éléments. Donc Battisti, rappelle des épisodes pour les gens qui ne sont pas du tout au courant. C'est ce type qui, dans les années 70, a été en Italie, comme énormément de gens en Italie, a été membre de la mouvance révolutionnaire, l'opposition extra-parlementaire, des gens qui ont été révolutionnaires, qui ont fait un certain nombre d'actions de manière plus ou moins violente selon les moments. Et en tout cas, il a fini les années 70 avec, en étant poursuivi pour 4 homicides, 2 où il est censé avoir tué directement les personnes, et 2 où il aurait été instigateur ou complice. Il a été arrêté, et puis il a réussi à s'évader de prison en 1981. Là-dessus, il arrive en France, il reste un petit peu en France, il repart au Mexique, et puis à un moment, François Mitterrand annonce que lui veut bien accueillir en France les Italiens qui ont fait partie de cette mouvance révolutionnaire en Italie, qui sont poursuivis par la justice italienne, qui veut bien les accueillir à condition qu'ils arrivent en disant qu'ils renoncent à la violence. Et s'ils renoncent à la violence, ils peuvent venir en France, ils peuvent rester en France et ils ne seront pas extradés vers l'Italie. Ça, ça dure quelques années. Mais en 2004, Jacques Chirac, président, décide que finalement, tiens, il va rendre tous les activistes italiens en question à l'Italie si l'Italie les demande. Et donc, il y en a plusieurs qui sont effectivement arrêtés et extradés. Battisti, lui, il arrive à se faire la malle avant et il se retrouve au Brésil. Au Brésil, où à l'époque, c'est Lula qui est président. Et donc, Battisti compte un petit peu sur le fait qu'il y a un président qui est plus ou moins une sorte d'ancien d'extrême gauche, disons, pour pas se faire envoyer en Italie. Et de fait, ça marche. Ça marche jusqu'à cette année, jusqu'à ces dernières semaines où le Brésil élit un président alors pour le coup vraiment fasciste, hein, celui-là c'est quand même vraiment dans les dirigeants de la planète, c'est vraiment un des plus radicalement fascistes, qui lui se fait une joie de se refaire des bonnes relations avec son homologue italien, lui aussi le fasciste Salvini, entre autres en lui rendant Cesare Battisti. La manière dont les médias français ont présenté ça cette semaine était quand même un petit peu étonnante, dans la mesure où, d'une part, on avait vraiment l'impression que... Alors, bon, d'une part, plus personne ne remettait en question sa participation réelle aux homicides dont il est accusé, alors qu'on aurait quand même quelques petites raisons de se poser la question. C'est-à-dire que lui, a priori, s'est jamais exprimé pour dire c'est moi ou c'est pas... Enfin, si, pardon, lui, il nie. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Toujours est-il que ce qu'on a comme élément pour l'accuser, c'est des éléments qui ont été récoltés en Italie dans un contexte quand même extrêmement particulier, dans la mesure où ces années 70 en Italie, donc de vraiment toutes les années 70, on peut compter de 1969 à 1980, l'Italie a été le théâtre d'une guerre sociale qui a été vraiment un peu gigantesque. On parle de, sur 11 ans, on parle de 12 690 attentats.
Wow.
On parle de 362 morts. On parle de gens qui sont tués par l'extrême gauche, de gens qui sont tués par les flics, de gens qui sont tués par les fascistes. On parle vraiment d'une sorte de moment un peu fou comme ça. Et alors, une des choses qui sont étonnantes quand on entend les médias parler de Battisti aujourd'hui, c'est qu'on a d'abord l'impression que c'était lui l'espèce de général en chef de tout ça, que c'est lui qui est un peu responsable, enfin que c'était le gros assassin de l'Italie de cette époque-là, que c'était vraiment une sorte de monstre. Alors que, bon, finalement, quand bien même il serait vraiment responsable de ces 4 homicides, ça serait une sorte de goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui se passait à l'époque. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, l'Italie, dans ce contexte-là, avait adopté toute une série de lois qui sont des lois un petit peu incroyables dans le contexte théorique européen, d'état de droit, de liberté publique, de machin. Enfin, c'est... On peut trouver un article sur lundi matin qui parle de Battisti, mais qui réexplique un peu l'évolution du droit en Italie à ce moment-là. Et on trouve des choses qui sont vraiment complètement folles. Mais entre autres, dedans, il y a eu toute cette législation sur les repentis, c'est-à-dire que des gens qui, après avoir été arrêtés généralement, ou éventuellement ils pouvaient se rendre, à condition qu'ils balancent des noms d'autres gens, voyaient leur peine énormément réduite. Et ça, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que tout le monde a balancé n'importe qui. La justice italienne, à l'époque, n'a pas du tout été regardante. Ce qui lui importait, c'était de mettre un max de gens derrière les barreaux. Et elle l'a fait, quoi. Elle l'a fait, elle y allait. Ça a été une justice d'abattage, pas du tout une justice où qui que ce soit se serait préoccupé de savoir qui avait réellement tenu des armes, qui avait réellement flingué des gens, qui avait réellement. C'était vraiment hop, on a une charte d'accusés, on a une charte d'accusation, on distribue un peu au petit bonheur la chance et on condamne un max. C'est dans ce contexte que Battisti a été condamné, et c'est ce que tout le monde a oublié aujourd'hui.
Canu Info.
Ah bah alors écoutez, je vais continuer à parler, c'est à nouveau moi. Et c'est pour vous dire que quelques universités, dont l'université Lyon 2, refusent la hausse qui est prévue des droits d'inscription pour les étudiants étrangers et les étudiantes étrangères. Alors c'est pas que Lyon 2, c'est Clermont-Ferrand, c'est Aix-Marseille, c'est Jean Jaurès à Toulouse ou encore Rennes 2. Depuis quelques jours, ces universités expriment leur opposition à la hausse des frais d'inscription imposée aux étudiants étrangers. Cette hausse avait été annoncée au mois de novembre par le gouvernement. Elle doit s'appliquer théoriquement à partir de la rentrée prochaine aux étudiants qui seraient extra-européens. Donc du coup, il y aurait trois tarifs pour s'inscrire à l'université. Il y aurait le tarif français, le tarif européen et le tarif
extra-européen.
Extra-européen, ouais, c'est ça. Le tarif vrais étrangers, quoi. Et alors, pour le coup, pour les extra-européens, on ne parle pas, on parle pas d'une petite augmentation, on ne parle pas de 10%, de 20%, on ne parle pas de doubler les frais d'inscription. On parle de 900% d'augmentation. C'est-à-dire que...
Petite bagatelle.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour les... Ah non, mais quand je dis 900%, en fait, j'ai fait n'importe comment mes calculs, c'est encore bien plus que ça. On parle de largement plus de les doubler, de les multiplier par 10. Bon, bref, jusqu'à maintenant, on en est à 170 euros. Pour une licence, on passera à 2770 euros pour une licence. Le master, c'était 243 euros. 380 euros en doctorat, et ben master ou doctorat, ça sera 3770 euros l'année de fac.
Wow.
Autant dire... que tout ça revient à dire les étudiants étrangers, on n'en veut plus dans les facs françaises. Ou alors, on veut vraiment des enfants de ministres, des enfants de ministres, de grands industriels. Enfin, au moins là, c'est clair et net. Je veux dire, on est sous le gouvernement Macron, on sait qu'il n'a pas beaucoup de honte à préférer les gens qui ont du pognon aux gens qui n'en ont pas. Mais alors, quand on parle des étrangers, c'est vraiment encore plus flagrant, quoi. Bon, en tout cas, plusieurs conseils d'administration d'université ont été très fâchés par cette histoire. Et ont annoncé leur refus d'appliquer cette hausse, et, ou alors, en tout cas, ils vont tout faire pour ne pas l'appliquer. L'Université Lyon 2, dans un communiqué, estime que cela remet en cause le principe d'une université française ouverte à toutes et tous. La présidente de Lyon 2 estime que l'augmentation des droits d'inscription ne paraît ni pertinente ni juste, car elle concerne des étudiants parmi les plus fragiles. C'est aussi ce que dit un communiqué en tout cas de la fac de Rennes 2 qui insiste sur la nécessité d'une réflexion approfondie sur les questions liées à l'accueil des étudiants étrangers. Alors le gouvernement lui précise bien que les nouveaux frais d'inscription ne couvrent qu'un tiers du coût réel. Alors bon, on ne sait pas trop d'où ils sortent ces calculs. Il y a un autre site qui par ailleurs est aussi une agence publique qui dépend aussi du gouvernement, dont j'ai plus le nom sous les yeux, mais qui lui trouve plutôt qu'en fait les étudiants étrangers finalement rapportent plus qu'ils coûtent. Bon, on ne sait pas bien comment ça se calcule, mais toujours est-il qu'en termes d'égalité ou pas égalité, c'est quand même vraiment un petit peu dingue cette histoire de multiplier par 20 les frais, quoi. Alors les universités et les syndicats étudiants craignent que les étudiants doivent renoncer à leur projet de formation en France en raison du niveau des frais d'inscription.
Bah, surtout quand même, pardon, mais ça vaut quand même le coup de rappeler que, je veux dire, déjà pour des niveaux de vie en France, 2600 euros, enfin je sais plus, c'est déjà énorme, mais suivant le pays d'où tu viens, c'est complètement colossal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment.
Bah c'est ça. c'est qu'effectivement, en particulier pour des étudiants du Maghreb ou d'Afrique francophone, la question se pose, qui sont quand même, qui effectivement viennent en fac en France, et ben la question de l'accessibilité se pose vraiment d'une manière un peu massive, quoi. Et du coup, la question se pose de savoir si les universités ont le pouvoir, le droit, la possibilité de refuser un truc qui émane du ministère de l'Éducation, ou peut-être plutôt de la Recherche d'ailleurs. En tout cas, l'UNEF pense que oui, et par contre, la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est ça,
Frédéric Vidal,
elle pense que non. Alors, aujourd'hui, elle a dit que les universités sont des établissements publics opérateurs de l'État. Les présidents sont fonctionnaires, il est très important qu'ils portent les politiques publiques décidées par l'État, donc en l'occurrence de mettre dehors les étudiants étrangers à coups de pied au cul s'ils ne sont pas extrêmement riches. Et elle a parlé de devoir d'obéissance et de loyauté des personnels.
Et ce qui est quand même un peu triste, c'est qu'il y a un paquet d'universités quand même en France, et il n'y en a que 4, c'est ça ? 4 ou 5, tu disais ?
Ouais, je crois que c'est 4.
C'est quand même...
Clermont-Ferrand, Lyon 2, Aix-Marseille, Jean Jaurès ou Rennes 2. Il y en a 5.
C'est quand même pas bien.
Mais en même temps, ça a commencé aujourd'hui, c'est possible que d'autres les rejoignent.
Que la fronde grandisse. Très bien. Ah bah je peux enchaîner direct, hein. J'ai pas besoin de générique.
Canu Info. Du mercredi.
La technique est un peu rouillée ce mercredi. Alors, on va attaquer notre mini rubrique Minority Report et on va aller faire un tour du côté de Nice où, on essaye d'être à la pointe, mais alors à la pointe de la technologie et de la surveillance. Car quand même, sans être technophobe, pas du tout, mais c'est quand même deux choses qui vont quand même souvent de pair, surtout quand on est une autorité. Et là, on pourrait dire une saloperie de start-up de Metz, a proposé à la ville de Nice une technologie de surveillance un peu flippante. Et il semblerait qu'elle ait plutôt eu un bon accueil auprès de son maire progressiste, Christian Estrosi. Alors, le concept que vend cette start-up, alors, c'est de la sécurité. Et ça, pour la plupart des maires de France, c'est quelque chose dont ils raffolent. Et en plus, il s'agit de sécurité faite par des ordinateurs. Et ça, les maires, ils aiment beaucoup. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est peut-être moins chiant à gérer qu'en ressources humaines que des flics. Bref, en gros, cette petite entreprise vend un logiciel qui serait capable d'analyser les visages, les expressions et les émotions des gens via les caméras de vidéosurveillance déjà implantées dans la ville. Donc voilà. Donc en gros, la start-up s'est dit bon, alors pour tout ce qui a été mis en place de caméras, d'autres ont déjà fait le job. Nous, on va juste pondre un logiciel capable de regarder les visages et de voir s'il y a quelqu'un qui fait la gueule ou pas. Voilà, et ensuite d'analyser tout ça. Alors aussi, si vous allez sur leur site internet, ça s'appelle, je sais pas, vous tapez Startup Metz, et de toute façon on va pas leur faire de la pub non plus, et voilà, et vous voyez des trucs...
Non, pas Metz, on ne parle pas de ce minuscule village au bord de l'étang de Thau, on parle bien d'une grande ville.
C'est ça, de Metz. En gros, sur leur site internet, on voit comme ça des gens, alors une foule ou alors juste des portraits avec autour de leur visage un petit carré de couleur avec un petit trait comme ça. Tout est joli, où c'est écrit genre féminin, comportement heureuse, voilà. Ou sinon, il y a une autre photo d'une vidéo de foule comme ça avec plein de petits carrés sur les visages. Alors ça va du vert. Enfin, il y a un dégradé du vert au rouge, vous voyez à peu près c'est ce choix de couleur. Donc vert, c'est pour les gens qui représentent ou qui vont bien ou tout ça. Et rouge, il y en a un qui est rouge comme ça avec marqué attention, danger, comme ça un peu. Voilà, c'est, donc cette personne a été identifiée par le logiciel comme une personne dangereuse. Je ne sais pas, peut-être qu'elle avait passé une sale journée, on ne sait pas. Ou alors elle faisait partie d'une banque de données aussi. Enfin voilà, tout ça est un peu flou pour l'instant. Voilà, en tout cas, le logiciel est capable de, nous dit la pub de l'annonce pour ce logiciel, peut analyser 10 000 visages secondes, c'est quand même beaucoup. Et donc il est capable d'analyser quand il est connecté au réseau de caméras de vidéosurveillance de la ville, de prévenir s'il y a une situation tendue qui arrive ou qui risque d'arriver. Voilà. Bref, pour Estrosi, c'est absolument super. Et pourquoi pas l'intégrer au système qui centralise les caméras de vidéosurveillance du tram de la ville. Eh ben, pourquoi le tram, hein ? C'est pas au hasard. C'est parce que l'attaque militaire de 2015 qui a eu lieu à Nice, eh ben, vous savez quoi ? La ville a déclaré que l'agresseur était passé par le tram. Ah, donc il y a un lien logique. Hop, terrorisme. Attention, surveillance. Hop, ben voilà, c'est dans le tram.
Bien sûr.
Donc voilà. Donc comme il a pris le tram avant, on s'est dit bon bah faut agir sur les trams comme ça. Bah on va endiguer les actes terroristes.
Et sans doute qu'il faisait une mine pas contente. Une caméra aurait repéré.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a des chances qu'il avait l'air un peu stressé le gars. Mais voilà. Pas sûr que les terroristes, les futurs terroristes reprennent le tram. Hein, mais bon ça, on s'en fout. Voilà, donc affaire à suivre, en tout cas l'opposition est vent debout, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, sachez que ça existe, qu'il y a des startups qui l'ont, il y a elle là, mais j'imagine que c'est vraiment pas la seule, et voilà. Ensuite, on peut quand même vraiment, mais vraiment pas faire une rubrique de ce genre-là sans parler d'Amazon. Et où 5 employés de la plateforme d'Amazon de Montélimar ont été convoqués à un entretien disciplinaire pour avoir soutenu publiquement à savoir Facebook, les Gilets jaunes. Entretien préalable à de futures sanctions, ce qu'Amazon a déjà fait à Douai où un employé a été licencié pour faute grave pour avoir publié sur son compte Facebook, je cite, « Bonjour à tous, demain blocage d'Amazon à... » Oh putain, c'est le nom d'un bled du coin... Lowin Plank, besoin de soutien des gilets jaunes et des routiers, partagez un max. Bon, ok, c'est pas hyper futé de sa part d'avoir balancé ça sur Amazon quand tu travailles sur Amazon. Bref, c'est pas non plus répréhensible, sauf que pour Amazon, si. Il a donc été viré sans indemnité ni préavis. En droit, c'est juridiquement flou. La loi autorise le licenciement pour des propos tenus publiquement, mais visiblement pas sur un profil ou un groupe privé tel que Facebook, blablabla. Bref, sur un réseau social. Quant au motif invoqué par Amazon, l'entreprise parle de comportement contraire aux, je cite, « valeurs de l'entreprise » et d'une faille dans, je recite, l'obligation de loyauté. Alors, entendre Amazon prôner la loyauté, ça fait quand même un peu rire. Hein. On imagine bien les dirigeants d'Amazon se dire, avant de virer quelqu'un, ou de le surveiller, ou de regarder son taux de petits bip par la scanner sur les gens en CDD, est-ce que ce serait loyal ou pas loyal de ne pas le reprendre en CDD ? Bref, du côté des syndicats, on s'inquiète du niveau de surveillance des salariés de l'entreprise. Je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Non, c'est tout ? Ah oui, et non, voilà, pardon, c'est ça. Et en gros, ils se demandent si ces histoires ne seraient pas révélateurs de pratiques encore plus intrusives de la part de l'entreprise sur les salariés. En tout cas, peut-être qu'Amazon serait intéressé par le logiciel cité tout à l'heure qui leur permettrait de savoir si leurs employés sont en colère en ce moment et qui serait donc susceptible peut-être de rejoindre les Gilets jaunes.
Et pendant les polémiques sur la violence dans les manifs, les mutilations par les flics continuent. Aujourd'hui, le directeur général de la police nationale rappelle les règles théoriques pour l'usage du flashball. Alors, résumé du contexte d'abord peut-être, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a pu voir que les flics utilisent sans plus aucune retenue les flashballs dans leur... Alors quand je dis les flashballs, bien sûr, si on veut être très précis, c'est les flashballs dans leur dernière version, dont le petit nom est LBD-40. Depuis que les flics disposent de cette arme, bon, du flashball d'une manière générale, hein, que ce soit dans son ancienne version ou dans la nouvelle, il faut savoir, est globalement plus précise, lance des balles plus grosses et les lance plus fort. C'est-à-dire que la balle dans les flashballs traditionnels de jusqu'à il y a quelques années partait à 90 mètres secondes, maintenant elle part à 110 mètres secondes. Bon, toujours est-il que depuis que les flics utilisent ça, il y a bien toujours, disons, plus ou moins un éborgné dans chaque mouvement social. C'est un peu le tarif. Mais cette fois-ci, dans le contexte des Gilets jaunes, les chiffres s'envolent. Ils s'envolent en compagnie des yeux et des mains des manifestants. Au point que Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, a rappelé aujourd'hui, dans une lettre envoyée aux forces de l'ordre, les conditions d'utilisation de cette arme au cours des opérations de maintien de l'ordre. Le lanceur de balles de défense calibre 40, donc LBD 40, ouvrez les guillemets, c'est une citation de la lettre, peut être employé lors d'un attroupement en cas de violence à l'encontre des forces de l'ordre ou si elles ne peuvent défendre autrement le terrain qu'elles occupent. Ça, ça fait partie de la lettre. Et donc, il poursuit en disant « Ces circonstances correspondent aux émeutes urbaines auxquelles les policiers sont actuellement confrontés. » Donc là, il dit globalement que ça puisse s'utiliser dans le cadre des Gilets jaunes, ça marche. Il continue en disant « Si le LBD peut constituer une réponse adaptée pour dissuader ou neutraliser une personne violente et ou dangereuse. Par contre, il demande, alors il demande, hein, attention, il reste poli, il demande aux policiers de veiller rigoureusement au respect des conditions opérationnelles de cette arme. Les intervalles de distance doivent être respectés et surtout, le tireur ne doit viser exclusivement que le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs. » Ben oui, c'est qu'on est quand même, pour le coup, à 17 manifestants et manifestantes éborgnés par le LBD 40. Alors là aussi, il y a des polémiques, il y a des chiffres. Aujourd'hui, RTL, on ne sait pas comment, a sorti le chiffre de 6 personnes blessées. Bon, il se trouve que le site reflet.info, qui a fait un article extrêmement documenté, et chaque cas est documenté, lui parle de 17 manifestants, manifestantes éborgnés depuis le début du mouvement, sans compter celles et ceux qui ont perdu une main. Et du coup, bah, c'est ça, c'est que... Alors, les flics disent, par exemple, du coup, un journaliste de ce site reflet.info, que c'est pas de leur faute. Vous savez, en manif, vous faites des tirs réflexes, disent-ils. Ça peut très bien atteindre le visage par erreur. Il y a de la fumée partout, et puis on trimballe les armes dans nos sacs, dans des coffres de voiture. Les viseurs peuvent être déréglés. Bon, alors sauf que c'est pas vrai, ou alors c'est vraiment le fabricant qui ment, mais le site reflet.info nous explique bien que les LBD 40 sont tous équipés d'un viseur électronique de la société EOTech, viseur qui est réglé et scellé, impossible à dérégler et ultra précis. Donc alors le tir réflexe, c'est vraiment que si on confie des armes aux flics pour qu'ils tirent n'importe quoi, n'importe comment, bah, du coup il y a effectivement un problème de personnel qui utilise ça. Mais dans la mesure où ils ne sont pas censés dégainer et shooter, quoi. Vu la manière dont est foutu le viseur, si les flics ébornent des gens, c'est qu'ils visent la tête et c'est tout. Alors, la lettre de Éric Morvan continue. Après un tir en cas d'interpellation, dès que l'environnement opérationnel le permet, il convient de s'assurer de l'état de santé de la personne et de la faire prendre en charge médicalement si son état de santé le justifie. Bon, en gros, vous venez de tirer dans la tête de quelqu'un, vous lui avez crevé un œil, ça se fait d'appeler une ambulance. Éric Morvan, toujours ce chef des flics, demande le respect très strict des... Alors, il demande, hein, encore une fois, le respect des dispositions contenues dans ce message et de donner des instructions impératives afin qu'elles soient rappelées lors des briefings opérationnels précédant chaque opération de maintien de l'ordre.
Oula, à mon avis, la police tremble.
Bah, alors la question se pose quand même de ce que ça veut dire cette lettre du grand patron des flics qu'il envoie et qui rend public en même temps, qu'il a filé à France 3. Alors on sait, les gens qui travaillent sur la police globalement savent que le niveau de violence utilisé par les flics dépend tout le temps des messages envoyés de manière plus ou moins ouverte, plus ou moins codée par la hiérarchie. Et la hiérarchie, c'est vraiment du préfet au ministre, quoi. On sait aussi que le niveau de violence dans une manif est essentiellement fixé par les flics. C'est eux qui vont déterminer si ça va se chamailler un peu, si ça va se taper grave ou si ça va vraiment être le massacre, en fonction de plein de tactiques qu'ils ont à leur disposition. Alors là, on pourrait se prendre à espérer, mais quand même sans trop se faire d'illusions non plus, qu'une partie seulement de cette hiérarchie trouve enfin, je dirais, qu'il serait temps de redescendre d'un cran. Mais malgré tout, on ne va vraiment pas trop se faire d'illusions, parce que le sommet de la hiérarchie, c'est le ministre de l'Intérieur. Et hier encore, il a apporté un soutien sans faille à la brutalité des flics. Alors c'était une interview à TV Carcassonne, puisqu'il était en déplacement à Carcassonne, où il a déclaré « Je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Bah, » c'est parce qu'il ne les connaît pas personnellement, de toute façon. Du coup, oui, on veut bien le croire. « Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. » Et il n'y a pas de liberté sans ordre public. C'est-à-dire, les flics vous massacrent la gueule, mais c'est pour l'ordre public et donc c'est pour la liberté. Et sur le LBD 40, il dit « Quand les forces de l'ordre sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. » Bon, depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis le début de ce mouvement, et quoi qu'on puisse penser par ailleurs du mouvement, hein, mais disons que les plaintes et les vidéos qui montrent des abus complètement incroyables de la part des flics, mais c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas dix, c'est juste qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et le ministre continue, face à la violence extrême, il faut des moyens de défense, on a des gens qui viennent provoquer, agresser, voire même tuer. Alors ça semble être l'espèce de fin mot de ce gouvernement. Alors c'est vraiment une sorte de manie de toujours dire il va y avoir des morts, il va y avoir des morts, les gens sont venus pour tuer, il va y avoir des morts. Ils nous avaient déjà fait le coup au moment de l'expulsion des zadistes. Attention, attention, cette fois-ci, c'est sûr, il va y avoir des morts. Ils l'ont refait déjà à propos des Gilets jaunes il y a quelques semaines. Là, attention, cette fois-ci, si la mobilisation est maintenue pour samedi, c'est sûr, il y aura des morts, les gens viennent pour tuer. Bon, je veux dire.
Les morts, si, il y en a, mais.
Alors, rappelons quand même que s'il y a des morts, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aucun flic a été tué dans une manif en France depuis mai 68. Encore, a priori, c'était un peu un accident. C'est un gars qui avait démarré un camion, puis il y avait un flic devant. Bon. Alors, côté manifestants, par contre, depuis mai 68. Eh ben, on peut citer Vital Michalon en 77, là, qui a été tué pendant une manif contre une centrale nucléaire. Malik Oussekine en 86. Et plus récemment, Rémi Fraisse en 2014. Et bon, pour la vieille dame marseillaise qui est morte après avoir reçu une grenade lacrymo-explosive en pleine tête il y a un mois. Alors celle-là, on ne va pas la compter. D'abord, elle n'était pas manifestante puisqu'elle était juste chez elle à sa fenêtre. Et puis, on ne va pas la compter parce que le procureur nous a très bien expliqué que le lien de cause à effet n'était pas établi entre le fait qu'elle ait prise une grenade dans la tête et le fait qu'elle soit morte le lendemain sur une table d'opération. Puisque c'était... C'est ça, il y avait a priori pas de lien.
Canu Info.
Et maintenant, on va passer au sort qui attend les chômeurs, puisqu'on est quand même vraiment dans un monde de plus en plus... Mais vous allez voir, mais toutes les infos aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas de répit pour les pauvres.
Mais par exemple, est-ce que tu veux dire que c'est... je ne l'ai pas fait en info, parce que je trouve que ça ne mérite pas plus qu'une ligne, mais vous avez entendu que là, dans son déplacement, Macron, il a quand même dit qu'il voulait éventuellement revenir sur sa loi, sur le 80 km/h. Vous savez, là, un peu dans le tout de l'énervement des gens. Bon, mais il y a ce truc des 80 km/h. Honnêtement, franchement, je veux dire, c'est quand même le truc où bon, c'est peut-être un peu relou des fois pour des gens qui roulent beaucoup, mais globalement, quand même, je veux dire, on s'en cogne, on s'en contre-cogne. Et donc, le mec, il est quand même prêt à revenir sur une loi là-dessus. Genre, il y a quand même des pannes. Enfin, bref, je sais pas, je veux dire, c'est quand même débile. Mais par contre, l'ISF, non. Je veux dire, l'ISF, il n'y a pas moyen.
En même temps, c'est vrai que cette loi sur les 80 km/h n'a pas beaucoup d'importance, qu'elle fait un peu chier les gens, qu'elle ne change pas grand-chose à quoi que ce soit, et que l'ISF, par contre, bah, du coup, ça ferait chier un paquet d'amis de Macron s'il revenait dessus. Et c'est quand même vraiment exactement là qu'on en est, quoi. Mais par contre, alors a priori, il n'est pas du tout question de revenir sur quoi que ce soit, sur la nouvelle loi, alors qui n'est pas vraiment une loi, qui est un décret qui a été promulgué le 30 décembre. En fait, c'est une loi qui a été votée l'été dernier et le décret d'application a été voté le 30 décembre. C'est sur le contrôle des chômeurs. Attendez, c'est pas vraiment sur le contrôle des chômeurs. Est-ce que je vais retrouver le nom de cette loi ? Non, je ne l'ai plus sous la main, mais c'est la loi pour la liberté de choisir son parcours professionnel, c'est ça. Alors, ça fait aussi partie de ce monde qui est de plus en plus dingue, c'est à quel point Macron et son gouvernement, d'autres aussi, mais alors qu'eux quand même en particulier, n'ont vraiment plus aucune honte pour utiliser des mots qui disent exactement l'inverse de ce qu'ils veulent dire. Globalement, cette histoire de interdire aux gens de manifester, c'est protéger la liberté de manifester, ils s'arrêtent pas, quoi. Et donc là, la liberté de choisir son avenir professionnel, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, vous allez voir que ça nous donne un paquet de choses. Alors, déjà, c'est en termes d'agents de Pôle emploi qui sont uniquement dédiés au contrôle des chômeurs. Il y en avait 215, il y a encore... au début de l'année 2018. Il y en a 600 aujourd'hui. Mais maintenant, quand même, dans les deux ans, dans l'année qui vient, on va passer à 1000. Et alors, bien sûr, il ne faut pas croire que Pôle emploi va recruter des gens pour ça. En fait, Pôle emploi garde le même nombre de personnels qui gèrent les chômeurs, sauf que des gens qui étaient conseillers jusqu'à maintenant, on va plutôt les mettre contrôleurs. Autant dire que ça montre un petit peu la perspective qu'on a du traitement du demandeur d'emploi. Avant, on l'aidait à trouver un emploi. Maintenant, on cherche des moyens de le radier s'il ne trouve pas tout seul un emploi. Bon, ce qu'il y a quand même dans cette loi aussi, c'est beaucoup la question des sanctions. Alors, rater des rendez-vous, rater des convocations, ne pas fournir assez de preuves de sa recherche active d'emploi, bim, sanction. Et les sanctions, ça sera quoi? Ça sera les droits qui seront suspendus. Pour un premier manquement, ça sera un mois de suspension. Un deuxième manquement, ça sera deux mois de suspension. Un troisième manquement, ça sera six mois de suspension. Suspension, on comprend bien que ce n'est pas non plus la radiation. Hein. Ça veut dire que vous êtes toujours allocataire, mais par contre, vous ne touchez pas une thune. Mais comme vous êtes allocataire, vous ne pouvez pas non plus toucher le RSA.
Ah oui?
Ah oui, c'est ça. C'est que si jamais tu te fais, tu oublies d'aller à ton rendez-vous, tu touches que dalle. C'est une sorte de... Alors, parce que jusqu'à maintenant, a priori, pour les gens en tout cas qui étaient légalement en France, il n'y avait pas trop de possibilités de rentrer dans la catégorie 0 euro de revenus. Globalement, si on ne rentrait pas dans une catégorie, on arrivait à rentrer dans l'autre. Bon, bah là, on va quand même avoir des gens qui vont pouvoir se taper 0 euro de revenus pour 6 mois. Vous imaginez un peu dans quelle situation ça vous met vis-à-vis de plein de choses, quoi. Alors attendez, on commence juste à parler de cette loi. Mais il y a aussi une nouveauté sur le dispositif de sanction, c'est la suppression de droits au chômage. Alors du coup, c'est ça, c'est que vous pouvez être suspendu, mais ça peut aussi être complètement, radicalement et pour toujours supprimé. Vous n'avez plus de droits au chômage. Alors vous savez, les droits au chômage, c'est ceux pour lesquels vous avez cotisé la fois précédente où vous aviez bossé. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même un... Quand vous travaillez, vous cotisez, votre patron cotise, en tout cas votre patron, votre boulot produit une thune qui sert après à payer le chômage, les autres, celui des autres et le vôtre éventuellement si vous arrivez au chômage. Mais là, du coup, vous avez payé, mais par contre, zéro droit au chômage. Alors ça, c'est les sanctions pour le cas de refus de deux offres raisonnables d'emploi. Les offres raisonnables d'emploi sont... à partir de maintenant, n'ont plus aucun rapport avec l'emploi précédent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on considérait qu'une offre était raisonnable dans la mesure où elle avait, où elle n'était pas bien plus pourrie que votre emploi précédent. Là, maintenant, rien à voir. On peut vous proposer un truc où vous avez touché la moitié de ce que vous touchiez avant, un truc qui est extrêmement loin de chez vous, un truc plus précaire, un truc moins bien payé. Mais si votre conseiller Pôle emploi trouve que c'est raisonnable, eh ben, c'est raisonnable, point final. Et donc, vous en refusez une, ça marche. Vous en refusez deux, c'est ciao. Vous avez plus le droit au chômage. Bon, du coup, ce décret, en gros, permet d'intensifier le contrôle des chômeurs et de leur serrer la vis dans le but de leur faire accepter des emplois précaires et mal payés, sous peine de suspension ou de suppression des droits au chômage. Paf ! Voilà. Mais attendez, c'est pas encore tout à fait fini. Parce qu'en plus du décret, une négociation est en cours depuis quelques mois autour d'une réforme de l'assurance chômage. Celle-là qui devrait être votée en février. Et cette réforme poursuit plus ou moins la même logique de chasse aux chômeurs. Elle a en premier lieu l'objectif de mettre en place la fameuse dégressivité des allocations, c'est-à-dire une diminution dans le temps si vous restez au chômage trop longtemps. Et ça, c'est pour remotiver les chômeurs qui... alors, pas tous les chômeurs, hein, puisque c'est dégressif au bout de 6 mois, donc c'est que les gens qui ont cotisé assez pour pouvoir toucher des allocations pendant 6 mois ou plus. L'autre chantier de cette réforme, c'est de réduire les coûts de la permittence. Qu'est-ce que c'est la permittence? C'est un peu comme l'intermittence, mais quand on n'est pas dans le spectacle. C'est pour les gens qui bossent à des moments et ne bossent pas à d'autres moments. Les gens qui ont des contrats précaires, les saisonniers, les gens qui sont en intérim, etc. C'est-à-dire que ça, globalement, c'est des gens qui arrivent à bosser un peu, mais quand ils ne bossent pas, ils crèvent pas de faim quand même. Ils peuvent payer leur loyer parce qu'il y a du chômage qui prend le relais. Attention, hein, c'est pas exactement les privilégiés de cette société, hein, c'est bien, là on parle bien des gens qui sont ultra précaires. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que, a priori, on va allonger les droits, le temps pendant lequel on va avoir des droits, mais on va diminuer les droits. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc pour ces gens-là, précisément, pour les gens qui sont ultra précaires. C'est-à-dire que là où avant, tu pouvais avoir bossé un petit peu, mais pas trop, te retrouver au chômage, et là, tu touchais 800 euros, mais tu pouvais rester au chômage 4 mois. Ben maintenant, tu pourras rester au chômage 8 mois, mais par contre, tu toucheras que 400 euros. Comme la plupart de ces gens, en réalité, retrouvent du boulot plus vite que ça, mais pour des courtes périodes, et bien à chaque fois, entre deux boulots, là où les gens touchaient 800, maintenant ils toucheront 400. Donc ils retrouveront du boulot plus vite, hein, vraisemblablement. Enfin, ou non, parce que ça dépend s'ils en trouvent réellement. Mais ça concerne pas tellement Macron, qui de toute façon, lui, il sait très bien que si tu as envie de trouver un boulot, il suffit de trouver un passage piéton. Alors voilà, c'est un ensemble de mesures qui visent à empêcher de faire valoir ses droits, ce qui constitue une baisse de salaire horaire réel pour les intérimaires, les saisonniers, etc., qui empêche missions et contrats courts pour des périodes de chômage. Oubliez ma phrase. Le but est de décourager ceux qui auraient la prétention de faire valoir leurs droits au chômage par l'épuisement face au harcèlement incessant des contrôles. Alors qu'on sait que déjà sur les gens du RSA, il y a déjà 36% des gens qui auraient droit au RSA qui ne le demandent même pas, tellement c'est relou.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info contre la machine expulsée.
Eh bien, on va continuer sur de joyeuses nouvelles et sur l'état de notre monde, puisqu'on va continuer de parler des bateaux qui circulent, enfin qui tentent plutôt de circuler en Méditerranée pour sauver des gens. Et bien là, on va parler du bateau de l'ONG Open Arms qui est bloqué au port de Barcelone depuis le 8 janvier par les autorités espagnoles. Le bateau était revenu en Espagne après avoir débarqué 311 personnes secourues au large de la Libye le 28 décembre, débarquement qui a eu lieu en Andalousie. Après avoir effectué quelques ravitaillements obligatoires, l'équipage devait reprendre la route le 8 janvier pour retourner repêcher des migrants en train de se noyer. Alors là, l'Espagne décide de bloquer le bateau car il n'a pas respecté les règles de navigation internationale. Il aurait dû, en effet, d'après cette fameuse loi des règles de navigation internationale qui n'ont jamais été autant scrutées par les gouvernements
que depuis qu'il s'agit de laisser des gens se noyer.
C'est ça. En fait, il aurait dû débarquer les migrants, non pas en Andalousie, mais en Italie ou à Malte, car ce sont les ports les plus proches et les plus sûrs, hein, comme l'indique ce fameux droit international. Voilà, donc l'interprétation de ces textes, c'est toujours un peu pas chez nous, chez les autres. En gros, c'est ça. Hein, toutes les interprétations qui sont faites par les gouvernements, c'est oui, c'est vrai, vous avez. On ne doit pas laisser mourir les gens, mais voilà, les ramenez pas chez nous. Allez plutôt les ramener soit dans des pays qui, de fait, vont vous empêcher de vous faire débarquer, soit dans des pays qui vont bien sûr les accueillir, mais ensuite les torturer dans leur geôle, comme c'est le cas pour la Libye. Voilà, donc l'ONG, en tout cas l'équipage du bateau, a dû se dire que, bon, bah, de toute façon, effectivement, peut-être c'était les plus près. Mais au vu de tous les bateaux et de toutes les histoires qu'on entend tout le temps, et ben en fait ils allaient se retrouver porte close et après pour eux c'est à mon avis ça allait être plus compliqué de pouvoir filouter et d'aller dans un autre port. Donc là ils se sont dit en fait on va pas aller se taper un refus en Italie ou à Malte, on va aller directement en Andalousie et puis voilà. Bon bah de fait le débarquement a réussi, c'est tant mieux pour les personnes qui étaient à bord. Sauf que l'Espagne a dit non, vous repartez pas tant qu'un accord n'a pas été trouvé par l'Union européenne sur la répartition des migrants qui arrivent sur notre sol ou sur n'importe quel sol. Voilà. Bientôt, hein, peut-être que les bateaux seront bloqués au port pour avoir peut-être refusé une priorité à droite. Hein. Les bateaux doivent être scrutés par les autorités de tous les pays européens et à la moindre faute, ils seront sanctionnés, voire on leur retirera leur pavillon. Enfin, là, tout un tas de stratagèmes quand même bien dégueulasses. On rappelle que l'Italie avait lancé une procédure contre l'Aquarius pour gestion illégale des déchets. Alors bon, c'est vrai que ça fait quand même toujours rigoler que ce soit l'Italie qui dit ça, qu'elle qui est quand même un peu...
Surtout quand ça sort de la bouche d'une ordure.
Surtout quand ça sort de la bouche d'une ordure, et dans un pays où la gestion des ordures est quand même en lien plus ou moins régulièrement, en lien avec la mafia. Hein. Donc voilà, là en gros, l'histoire de l'Aquarius était... un peu une histoire de... On leur reprochait d'avoir mal trié leurs déchets entre des vêtements souillés et des vêtements non souillés. Voilà où on en est. L'ONG a déclaré sur Twitter, je cite, « Nous empêcher de sauver des vies est irresponsable et cruel. Des politiciens lâches mettent en marche le compteur de la mort. » Nous n'avons rien de plus à ajouter à cela.
Il faut que ça se sache.
Mais alors, il faudrait surtout pas croire que la France n'a pas sa part de dégueulasserie et que beaucoup de morceaux de l'État prennent part à cette dégueulasserie. Alors, on sait que, mine de rien, ça nous arrive dans ce Canu Info, c'est même pas extrêmement rare de saluer ici ou là un juge ou une décision de justice. Ça va pas être le cas aujourd'hui. Puisque on va vous parler du procès de Pierre et Kevin qui ont été condamnés jeudi dernier d'une manière un petit peu surprenante, enfin dans un cadre de justice un petit peu surprenant. Donc Pierre et Kevin, eux, ils font partie des gens à Briançon qui globalement filent des coups de main à des migrants. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les histoires de migrants qui traversent les montagnes, qui traversent en basket des chaînes de montagne où il y a un mètre de neige, où il fait moins 15, ou blablabla. Un certain nombre de ces gens meurent, un certain nombre ne meurent pas parce qu'ils rencontrent toutes sortes de personnes solidaires, certains qui parcourent eux-mêmes la montagne pour sauver des vies. D'autres qui offrent ici un hébergement, là du soin, parfois font monter quelqu'un dans leur bagnole, à chaque fois quand même au risque de gros problèmes avec la justice. Bon là, j'ai un communiqué des solidaires qui racontent ce procès et qui disent qu'ils ont été saisis de stupéfaction au moment où le tribunal, donc jeudi dernier, refuse les demandes de renvoi des avocats. Qu'à ce moment-là, ils ont compris que de toute façon, il s'agirait d'un procès purement politique et que ce procès ne servirait qu'à condamner l'engagement militant et humaniste de ces deux solidaires. Alors pourquoi ? Parce que ces demandes de renvoi se faisaient dans un contexte où un des avocats confiera qu'il n'a jamais vu ça, un refus de renvoi dans un cas comme ça. Mais de toute façon, dans les Hautes-Alpes, sur les procès de personnes solidaires, il se passe des choses extraordinaires. Et donc Maître Chaudon, l'avocat de Pierre, au début, quand il demande le renvoi, il exprime sa difficulté à exposer et analyser sérieusement un dossier qui contient plusieurs centaines de pages, avec tout et n'importe quoi dedans, mais par exemple des relevés GPS, alors qu'il n'a reçu ce dossier que le 27 décembre, ce qui est en réalité vraiment court pour, enfin, quand on sait comment bossent les avocats. Il ajoute aussi qu'il détient des pièces capitales à joindre au dossier. En particulier les rushs d'un film qui a été tourné par des journalistes italiens qui accompagnaient Pierre ce jour-là et que l'instruction ne s'est pas du tout préoccupée de demander, que lui veut apporter au dossier, mais du coup il faut encore qu'on ait le temps de les regarder. Bon, en fait, c'est même pas la peine d'y penser, personne ne va jeter le moindre coup d'œil à ces rushs. Quant à l'avocat de Kevin, lui, pourquoi est-ce qu'il demande un renvoi ? Eh bien, il demande un renvoi parce que... Ah non, elle, pardon. Elle demande un renvoi, pourquoi ? Parce qu'elle, elle n'avait pas reçu le dossier. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas reçu le 27 décembre, elle n'avait pas reçu peu de temps avant, elle n'avait pas reçu du tout. Mais la procureure, là, eh ben, elle explique que ce dossier, oui, bon, ben oui, mais c'est vrai, mais quand même, ils avaient essayé de l'envoyer par fax. Mais que le fax ne marchait pas. Alors, ils ont fait 4 essais, puis bon, ben... Qu'est-ce que vous voulez ? Ça marchait pas, ça marchait pas, alors voilà, c'était impossible. Par mail, c'était impossible aussi parce que, ouvrez les guillemets, c'est la procureure qui parle, vous savez, les moyens de la justice, fermez les guillemets. Voilà, enfin, c'est ça, c'est que du coup, là, on se retrouve avec une avocate qui, juste, a pas eu le dossier. On parle pas de comparution immédiate, hein, on parle de gens qui étaient convoqués depuis longtemps, hein. Qu'à cela ne tienne, le parquet de Gap avait décidé que le procès devait se tenir et donc il se tiendra. Alors, une télé italienne a justement fait un reportage le soir où Pierre est accusé d'avoir aidé deux personnes à échapper aux flics. Donc c'est ça les rushs dont on parlait. En tout cas, dans le reportage qui a été visionné, on voit Pierre qui distribue du thé, des gâteaux, des gants. Les flics arrivent, contrôlent l'identité de tout le monde. Là, il y a une personne migrante qui fait un malaise. Pierre la transporte dans la voiture de police et demande aux agents des forces de l'ordre d'appeler les secours. Et voilà visiblement ce qui lui vaut de se retrouver là-bas. En tout cas, ça ne correspond pas du tout au récit des flics de ce même moment. Et le récit des flics, on dirait plutôt que Pierre, c'est... Alors, je n'ai pas tous les détails, malheureusement, mais que Pierre, au même moment où en réalité il était en train d'aider quelqu'un à monter dans la voiture, les flics disent qu'il était en train d'aider des gens à s'enfuir. Bon, en tout cas, vu la mascarade de justice pour le coup réellement, Kevin, lui, va juste refuser de parler. Son avocate va refuser de plaider le dossier, de toute façon, qu'elle n'a pas pu étudier vu qu'elle ne l'a pas eu. Plusieurs personnes présentes dans la salle expriment alors leur colère. Une sorte de médecin notable dans le coin part en claquant la porte du tribunal. Et donc, les gens solidaires là-bas terminent leur communiqué en disant « Nous sommes atterrés, révoltés. Nous savons ce qu'il se passe à la frontière. Nous avons signalé à M. le procureur de Gap les maltraitances, les tabassages, les vols, les propos racistes et xénophobes, les dénis de droits et d'humanité. » La mise en danger quotidienne subie par les exilés, de la part des flics, la traque dans la montagne avec des chiens. Mais finalement, le procureur est peu intéressé par toutes ces choses qui constituent chacune un délit, est bien plus intéressé par le fait de lever à des moments le petit doigt pour sauver une personne.
Et bien on va continuer ce Canu Info sur une note très peu réjouissante et on va aller du côté de la Tchétchénie où une nouvelle vague d'arrestations de personnes homosexuelles. Alors c'est de homosexuels de manière réelle ou supposée, hein. c'est on fait pas trop dans le détail et de toute façon peu importe. Depuis décembre 2018, le réseau russe LGBT recense une quarantaine de personnes interpellées dont au moins deux seraient mortes sous la torture. Selon l'ONG, les autorités tchétchènes ont confisqué les papiers d'identité des personnes arrêtées, notamment pour les empêcher de quitter le territoire tchétchène. Les détenus seraient menacés par, je cite, des affaires criminelles fictives contre eux ou leur famille. Pour rappel, le président tchétchène, quand il a été interrogé sur son traitement des personnes homosexuelles par un journaliste, il a répondu, je cite, « Accrochez-vous bien, nous n'avons pas ce genre de personnes ici, nous n'avons pas de gays, et s'il y en a, emportez-les au Canada. Prenez-les loin d'ici pour que nous n'en ayons pas chez nous pour purifier le sang de notre peuple. Ils sont le démon, ils sont à jeter, ce ne sont pas des hommes, que Dieu les punisse pour ce dont ils nous accusent. Ils en répondront devant le Tout-Puissant pour ça. »
Ah ouais.
Voilà. Voilà ce que ça voudrait dire être homosexuel en Tchétchénie. Au mois de mai dernier, le journal russe Novaya Gazeta annonçait que les autorités de la Tchétchénie avaient arrêté plus de 100 homosexuels et incité leurs familles à les tuer pour les laver de leur honneur. Toujours selon le journal, pardon, au moins deux personnes avaient été tuées par leurs proches et une troisième était décédée des suites d'actes de torture.
Ok.
Voilà.
Eh ben, c'est sur cette, c'est dans cette ambiance qu'on va vous quitter et vous dire à la semaine prochaine.
En attendant, on va laisser quelques minutes de bande continue et on vous retrouvera la semaine prochaine. Et teasing de la semaine prochaine, visiblement une personne viendra nous parler de la réforme de la justice.
Ouais, et là, vous allez voir aussi que décidément, on vit vraiment dans un monde de dingue, de dingue.
En attendant, merci de nous avoir écoutés et ouais, à la semaine prochaine.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios. Avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Que de crimes commis au nom de la patrie, que de larmes de sang, d'atrocité, de deuil, par qui jamais sera suffisamment flétrie cette idole acharnée à bâtir des cercueils. Combattons sans pitié l'esprit de chauvinisme qui jette dans les cœurs des sentiments pervers. Maudit soit à jamais le mot patriotisme. Notre unique patrie à nous, c'est l'univers. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous, nous voulons, amis, que sur toute la terre règne avec la paix, justice et liberté. Nous voulons des pays, abolir les frontières. Tous les peuples sont faits pour la fraternité. Nous voulons des pays, abolir les frontières. peuples sont faits pour la fraternité.